Laudetur Jesus Christus.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. Dans un monde interconnecté, nous avons besoin d'un multilatéralisme en réseau d'une gouvernance mondiale. C'est le plaidoyer du secrétaire général des Nations Unies à l'ouverture tout à l'heure de la 75e Assemblée générale de l'institution. Les festivités pour marquer l'anniversaire ont été annulées en raison de la pandémie. Cette année, le Palais de Verre à New York restera vide ou presque. Les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'ONU s'exprimeront par message vidéo. Cela devrait prendre 5 jours. Une prise de parole du pape François est attendu. Le Saint-Siège a le statut d'observateur à l'ONU. Et outre les prises de parole, 3 sommets virtuels seront organisés sur la biodiversité, l'égalité homme-femme et les objectifs du millénaire, mis à mal par la crise sanitaire. Actuellement, 31 millions de personnes ont été affectées de par le monde à la Covid-19. En Espagne, afin de tenter de freiner l'explosion des cas de contamination dans la capitale, Madrid et sa région, les autorités imposent à nouveau et pour 2 semaines de sévères restrictions à près d'un million de Madrilènes. Le reportage de Louis Marsens.
Les Madrilènes du sud de la capitale peuvent sortir de chez eux, mais ils n'ont pas le droit de quitter leur quartier, sauf pour aller travailler ou en cas de force majeure. Ici, les habitants de Vallecas, un quartier pauvre du sud de Madrid, sont en colère. Momo, vendeur de téléphones portables, observe depuis sa boutique le contrôle de police installé à la frontière de la zone reconfinée.
J'habitais ici, j'ai travaillé ici, je n'ai pas droit à passer dans un autre quartier. C'est pareil que quand je suis petit, ma mère m'est fermée dans la maison. Je ne suis pas libre.
Pour l'instant, la police ne sanctionne pas, elle informe, mais dans 48 heures, elle mettra des amendes. Ce reconfinement partiel est vécu ici comme une injustice. Inès, étudiante, elle n'hésite pas à parler de ségrégation.
On respecte les règles comme partout à Madrid et en Espagne, mais le problème est que les quartiers du sud de Madrid sont clairement discriminés et il n'y a pas de vraies mesures pour essayer de freiner l'épidémie. Par exemple, on n'a pas assez de médecins, assez de pédiatres, et par contre, nous sommes confinés.
Dans les quartiers sud, on recense jusqu'à 1200 cas positifs pour 100 000 habitants. C'est un record en Europe, mais beaucoup doutent de l'efficacité de ce reconfinement, car les gens continueront à se déplacer pour aller travailler en centre-ville. Et chaque matin, le métro et les trains de banlieue sont bondés. Madrid, Louis Marsens pour Radio Vatican.
À l'Espagne, où plus de 10 000 nouveaux cas sont enregistrés toutes les 24 heures, un record dépassé par la France à plusieurs reprises ces jours derniers, ce qui pousse ce soir l'Italie à imposer unilatéralement des tests PCR à tous les voyageurs en provenance des zones françaises les plus touchées, comme la capitale Paris. Gel, masque, gants, en Italie sous haute surveillance sanitaire. Les électeurs avaient jusqu'à 15 heures ce lundi pour se rendre aux urnes pour un référendum sur une réduction du nombre de parlementaires, mais aussi des élections locales. L'extrême droite espère aujourd'hui s'emparer de plusieurs fiefs de la gauche, dont la Toscane. La participation atteignait hier soir près de 40%. Au Vatican, le pape a reçu ce matin un groupe de 42 enfants autistes en provenance de l'Autriche. Il leur a rappelé que chaque personne est belle et de la même manière aux yeux de Dieu. François les a encouragés à prier. Il a remercié aussi tous ceux qui les accompagnent. Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, vous l'avez fait à Jésus, a-t-il dit. Plus de détails sur vaticannews.va. En France, on l'a appris cet après-midi, le décès de Michael Lonsdale à l'âge de 89 ans, icône du cinéma et du théâtre, l'acteur franco-britannique a incarné plus de 200 rôles. On se souvient de celui dans James Bond et surtout de son interprétation de Frère Luc dans Des Hommes et des Dieux de Xavier Beauvois en 2010. Catholique engagé, il avait donné sa voix à Bernard de Clairvaux ou encore mis en scène des spectacles sur Saint-François d'Assise ou Sœur Emmanuel. Aux Philippines, des milliers de personnes ont manifesté ce lundi dans plusieurs villes de l'archipel. Le 21 septembre correspond à l'anniversaire de l'instauration de la loi martiale en 1972 sous la dictature de Fernando Marcos. Beaucoup s'inquiètent d'un retour à cette loi martiale dans le pays, à commencer par les évêques philippins qui invitent à tirer les leçons du passé. Olivier Bonnel.
La leçon de la loi martiale ne doit pas être oubliée afin que ces horreurs ne se répètent pas, souligne la conférence épiscopale philippine, qui regrette que ces années sombres de l'histoire du pays soient aujourd'hui souvent mises de côté par de nombreux philippins. Nous devons tirer les leçons de cette loi martiale et en vivre, et nous ne devons pas permettre qu'elle se reproduise, écrit l'évêque de Balanga, Monseigneur Huberto Santos. Nous devons valoriser, défendre et promouvoir notre liberté, plaide-t-il. L'évêque auxiliaire de Manille déplore de son côté que les philippins n'ont rien appris de l'histoire. En vigueur pendant 9 9 ans, de 1972 à 1980, cette loi reste une période très sensible dans la mémoire collective de l'archipel, car elle a ouvert la porte à toutes sortes d'abus. Selon un groupe de victimes, le Karma, plus de 30 000 personnes auraient subi des exactions durant cette période, parmi lesquelles de nombreux cas de torture. Cette période de loi martiale a été aussi marquée par un vaste mouvement de corruption et d'accaparement des biens au profit de Fernando Marcos et de ses proches, une période au cours de laquelle l'Église des Philippines a subi elle aussi de nombreuses intimidations.
Sans gouvernement, le Liban se dirige vers l'enfer. L'image est celle du président Michel Aoun, 85 ans, manifestement fatigué. Les partis politiques libanais sont encore dans l'impasse. Ils ne parviennent pas à former de gouvernement en raison de divergences sur l'attribution de portefeuilles ministériels. Enfin, plusieurs grands noms de la banque, HSBC, Deutsche Bank, ING, elles ont plongé en bourse ce lundi après une enquête menée par un consortium de journalistes de 108 médias internationaux. Ces journalistes les accusent d'avoir permis le blanchiment pour au moins 2000 milliards de dollars d'argent sale venant de la drogue ou d'actes criminels entre 1999 et 2017. Éclipsée par l'actualité libanaise, la Syrie se débat aujourd'hui avec une crise économique aiguë, un chômage massif et une reconstruction qui se fait attendre. Les sanctions internationales imposées contre le régime de Bachar el-Assad touchent de plein fouet toute la population, causant des pénuries de carburant, privant les structures sanitaires d'équipements adéquats pour soigner les malades, entraînant une augmentation des prix des denrées de base et des médicaments. À cette situation angoissante s'ajoute aujourd'hui la pandémie de Covid qui plonge un pays déchiré par 9 ans de guerre dans une profonde misère morale et matériel. Nous en parlons avec le frère Ibrahim Azelbag, OFM, curé de la paroisse latine d'Alep, en Syrie.
Nous avons été très touchés de la crise de virus. La majorité des frères ont été affectés. Nous avons eu 2 morts des frères et les autres ont été très malades. J'ai été l'unique qui a resté pour servir les autres. Au même temps, les structures sanitaires sont très endommagées à cause de la guerre, avec aussi les prix très élevés des médicaments. Ce n'est pas seulement le virus, mais beaucoup des crises qui sont été maintenant mises ensemble après 9 ans de la guerre et qui font vraiment de la situation, des conditions de vie humaines pour les personnes et pour les familles.
Comment les gens réussissent à se soigner? Comment font-ils pour aller à l'hôpital, acheter des médicaments?
Et c'est notre défi comme Église. Nous essayons de faire tout ce que nous pouvons. Nous avons commencé à envoyer les personnes, forcer les personnes pour aller chez les docteurs, pour faire les analyses, pour entrer dans les hôpitaux. Et nous avons essayé de prendre la charge de toutes les personnes, même avec les médicaments très chers, d'acheter pour des vitamines, des antibiotiques, de couvrir toutes les choses qui sont dont les personnes ont besoin. Ce n'est pas facile pour nous. C'est vraiment un grand défi aujourd'hui. Je n'ai pas imaginé de voir ou de vivre cette situation des personnes qui souffrent avec cette crise qui n'est pas finie encore de virus.
Mon père, est-ce que vous ressentez en ce moment de crise les sanctions internationales qui pèsent sur la Syrie?
C'est sûr. Les sanctions vont contre les personnes, le peuple, les familles. Les résultats des sanctions, c'est d'empêcher même les hôpitaux, même les cliniques privées d'avoir l'équipement desquels ont besoin pour soigner les malades. La première cause de notre souffrance aujourd'hui, je peux dire, ce sont les sanctions.
On a un peu l'impression, en vous écoutant, que ce que vous vivez actuellement est presque pire que la guerre.
Oui, vraiment, c'est plus grand. Parce que vous pouvez entendre les missiles qui tombent. Vous pouvez imaginer quand vous êtes préparé à une chose comme ça. Et nous avons passé beaucoup de difficultés, de défis. Mais avoir une crise de plus, comme la crise de virus, dans un pays déchiré et très pauvre, avec les personnes sans travail. Et j'ai écouté beaucoup de familles, beaucoup de personnes qui ont dit que la souffrance aujourd'hui est plus grave de ce que nous avons passé en 9 ans de souffrance.
Interrogé par Manuela Afiji, le frère Ibrahim Azelbag, OFM, curé de la paroisse latine d'Alep, était ce soir l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. L'actualité revient demain matin à 8h30 en compagnie de Manuela Affigi. Excellente soirée à tous.